je t'agace, si je suis trop nul, je deviendrai tout pâle, tout muet. Fais-moi une place au fond de ton cœur pour que je t'embrasse lorsque tu pleures.
Bonjour le wie geht's denn, le wie rund funkt zu her, heute Morgen, alles im Butter, die Wildsinge im Garten, gell, der Frior ist immer noch da. Toujours un peu d'Alsacien pour la musicalité de notre Mutterspruch, ça fait du bien dans le dedans de soi. Alors Müller, qui est ton invité, heute Morgen? Un peu de patience, je vais vous le dire. C'est un homme heureux, visage jovial, petite moustache poivre et sel. Il est sympa, il n'a pas la langue dans sa poche, homme de nature, parle aux arbres, il parle aux oiseaux et même aux plantes. Une émission 100% écolo ce bon matin et je pense que la nature est plus intelligente que nous les humains. Vraiment je le pense et lui aussi je crois. Voilà le menu de notre papotage du jour. La nature, nous en avons tant besoin, mais a-t-elle besoin de nous? La nature, en voilà une bonne question à débattre avec mon invité. Bonjour invité surprise, tu peux te présenter?
Oui, bonjour, je m'appelle Pierre Hibert, je viens d'Erstein, je suis guide nature et je m'occupe aussi d'une association de protection de la nature sur Erstein.
Tu es 100% président de toutes les natures?
Je n'ai pas cette prétention d'une part, et d'autre part, si j'étais président de toutes les natures, je pense qu'on pourrait mettre beaucoup plus d'actions en place.
Ah, c'est sympa ce que tu dis. Alors, moi je suis très heureux de cette belle rencontre, parce que moi aussi je suis un passionné de la nature. Je crois qu'on va bien s'entendre ce matin, pendant cette demi-heure. Parle-moi de la nature que tu affectionnes, Pierre. C'est quelle nature que tu affectionnes?
Alors, j'affectionne toutes les natures. Moi, je suis sur Erstein, donc je vis beaucoup dans la nature locale. On a la chance sur Erstein d'avoir trois biotopes assez exceptionnels. On a encore une partie du Ried, avec une source phréatique remarquable.
Le Brunnwasser.
Le Brunnwasser et le Sauerbrunnen.
Ah ouais, c'est translucide, c'est beau. C'est du Grundwasser, ça, c'est du Grundwasser.
Tout à fait, c'est la nappe qui ressurgit.
Ah ouais, c'est beau.
C'est extraordinaire.
Et il y a des poissons là-dedans, il y a des fiches.
Il y a un petit peu de poissons, il y a du brochet, il y a de la truite.
La truite sauvage?
La truite sauvage, ah, oui, exactement. Ah,
mais elle est protégée là-bas, hein, je crois. On la pêche pas trop.
Hein. Par principe, on ne pêche pas dans ce secteur.
Hein. Ouais, ouais.
Heureusement, d'ailleurs, ça permet de garder cette biodiversité.
Je crois qu'on peut même attraper les poissons avec la main quand tu... Alors, j'exagère un peu.
Mais... Oui, alors ça, j'ai jamais essayé parce qu'elles restent très, très sauvages, heureusement pour elles, d'une part. Et d'autre part, faut pas oublier que dans ces sources phréatiques, l'eau... On appelle ça sténotherme, c'est-à-dire qu'elle a la même température toute l'année, elle est aux alentours de 12 degrés.
Même en hiver, elle ne gèle pas, tu veux dire?
Elle ne gèle jamais.
Y a varum, pourquoi?
C'est une source, c'est une résurgence, donc elle sort du sol à cette température, et puis elle s'écoule. Donc,
presque de l'eau chaude alors?
En hiver, lorsque je fais des sorties dans cet endroit, je dis aux gens, vous pouvez vous baigner parce qu'il fait beaucoup plus chaud dans l'eau.
Je me souviens des images qu'on avait fait à l'époque, il y avait de la vapeur comme ça qui est au-dessus de l'eau. Hein. C'est d'une beauté, je trouve, c'est beau. Ouais.
C'est vraiment très saisissant. Hein. Surtout qu'on a quand même beaucoup de cours d'eau qui sont un petit peu moins transparents et qu'on voit cette eau cristalline, c'est remarquable.
Et alors, tout à l'heure, j'ai posé une question dans mon petit commentaire avec de la musique de Mozart. Est-ce que cette nature, est-ce qu'elle a besoin de nous, nous les humains, les vilains humains qui cassent tout, qui salissent tout?
Alors, je vais être un peu brut de décoffrage. Hein. Il y a sur la Terre, il y a, on va dire, un seul être vivant qui est vraiment nuisible à la nature, c'est l'homme. La nature n'a pas besoin de nous. Par contre, l'homme a vraiment beaucoup besoin de la nature. On l'a oublié, mais il est temps de se reconnecter.
On a besoin de le respirer, le bon air, et la nature, elle nous donne de l'oxygène. Les arbres, tout ça, ça s'évapore.
Tout à fait. Alors, rien qu'en parlant de l'oxygène, si toutes les plantes disparaissaient, l'homme y disparaît au bout de quelques semaines.
Ah
justement
oui.
Par cette fabrication, si on peut dire, d'oxygène. Hein. Donc, c'est absolument indispensable.
Mais pourquoi on ne protège pas plus la nature? Tu vois, je suis arrivé avec mon vélo ce matin, je passe l'orangerie, les comptades, et quand je vois les poubelles qui débordent de tout avec des détritus par terre, je ne comprends pas qu'on puisse faire encore ça aujourd'hui, quoi.
Ah oui, c'est vraiment un débat très, très vaste. Hein. Il y a encore beaucoup de travail à faire. C'est vrai qu'il y a une sensibilisation qui est en train de monter par rapport à la protection de la nature. Mais quand on voit certains réflexes de personnes, justement par rapport aux poubelles où le tri n'est pas fait, etc. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir.
Est-ce que ta forêt que tu affectionnes, est-ce que pareil, il y a des détritus, les gens jettent des bouteilles, des canettes, enfin des papiers, est-ce que les gens n'ont pas plus de respect pour ces belles forêts?
Alors il y a du respect, mais il y a aussi des dépôts sauvages. Alors pas forcément de papiers ou de bouteilles, mais ce que je vois de plus en plus d'ailleurs, et je ne comprends pas, ce sont des déchets verts.
C'est ça veut dire quoi, ça?
Des tons de gazon, quand on taille les arbres, on met ça dans la forêt. Alors,
mais c'est grave, ça, parce que ça se régénère, non? On a peut-être besoin de ça dans la nature, non?
Non, pas forcément, non, parce que les arbres qu'on peut avoir dans les jardins, ce ne sont pas forcément des espèces locales, autochtones.
Hein, d'accord.
Et donc, elles peuvent éventuellement apporter des graines qui n'ont rien à faire dans la forêt. Alors, je comprends difficilement, parce qu'il y a des déchetteries un petit peu partout.
Oui, c'est vrai.
Il n'y a pas de souci pour apporter ça là-bas.
Oui, mais les gens sont incroyables, ils font attention à rien. Mmh, ouais. Alors, tu me parlais à l'instant de ta forêt du Rhinwald. C'est là-bas qu'il y a des lianes, non? Il n'y a pas des lianes qui... Raconte-moi ce que c'est exactement, ces lianes.
Alors, des lianes, on en a plusieurs. D'abord, ça peut être surprenant qu'on trouve des lianes. D'habitude, on les voit dans les forêts équatoriales, qui sont caractérisées par un climat chaud et humide. En été, chez nous, en Alsace, il fait chaud, voire très chaud. Et l'humidité, même s'il ne pleut pas, on l'a toujours sous nos pieds par rapport à cette immense nappe phréatique. Donc, on a des lianes. Le lierre, c'est une liane. La clématite, c'est une liane.
Ah, aussi ? Ah, ouais.
Alors, c'est pas la clématite qu'on trouve dans
les
jardins.
Qu'on a dans les jardins, voilà. Ouais.
Et puis, on peut avoir de la vigne vierge qui, malheureusement, a pratiquement disparu.
Ouais. Est-ce que tu penses qu'on peut entendre Johnny Weissmuller avec son cri de Tarzan, là, tu penses?
Alors, j'étais souvent dans la forêt, je ne l'ai jamais entendu.
Hein. Ah, c'est dommage,
mais,
quand même.
Mais les personnes qui m'accompagnent lors de sorties sont toujours assez impressionnées par ces lianes et la réflexion de faire le Tarzan revient très souvent.
Oui, c'est vrai, donc moi aussi, je pense à ça. Mais alors, je voulais en venir à cette nature que tu partages avec les autres. Ça veut dire que tu es guide de nature, tu emmènes les gens en balade?
Oui, exactement. Donc, je suis guide nature et je propose un certain nombre de sorties tout au long de l'année. Alors, les thèmes sont variés. Hein. Ça va, par exemple, en hiver, aller à la découverte des oiseaux hivernants, parce qu'on a le très beau plan d'eau de Plopsheimkraft.
Ah oui.
On a un certain nombre de...
Où les oiseaux hibernent là-bas ou
Ils hivernent.
Ils hivernent. Ils hivernent pas, comme les ours. Ouais.
Voilà. Les ours, ils hibernent.
Ils hibernent, oui, c'est vrai.
Les oiseaux, ils hivernent. Ouais. Donc, ils passent l'hiver chez nous. On peut avoir parfois des espèces assez rares. Donc, on a ce côté au niveau thème de sortie. Après, je fais des sorties sur la découverte du rite, bien entendu. Le réveil du chevreuil.
Ah, c'est sympa, ça. C'est en ce moment, ça?
Non, c'est pas en ce moment. Je commence qu'à partir du mois de juillet pour une raison toute simple. C'est l'endroit où je vais est une zone de tranquillité. Donc, pour l'instant, il n'y a personne qui y va. Même pas les agriculteurs. Ce sont des prairies. Ils viendront fin juin pour faucher. Et... zone de tranquillité, c'était le cas pour les oiseaux, notamment le courlis, mais c'est aussi l'époque où les chevreuils mettent bas.
Ah,
donc on essaie de garder le secteur le plus tranquille possible.
Et tu en vas beaucoup? Il y en a beaucoup dans cette forêt, des chevreuils?
Des chevreuils, il y en a beaucoup, oui. Alors on les voit plus facilement dans le ride, parce que ce sont des prairies, donc c'est assez découvert. Ils sont assez nombreux.
Ils sont hard comme ça, ils sont nombreux, ils sont...
Ils sont nombreux, oui.
Et toi, tu les observes avec des jumelles, alors?
Oui, alors donc, les sorties de chevreuil que je fais, c'est à partir de 6h du matin, donc il faut se lever un peu tôt.
Ah oui, d'accord.
Mais c'est toujours des moments assez remarquables, parce que toute la nature, toute la vie s'éveille, et on en voit pratiquement à chaque sortie.
Et les sorties, tu as combien de personnes qui viennent dans tes sorties?
Alors, c'est très, très variable. La sortie chevreuil, je limite à une dizaine de personnes maximum pour des questions de discrétion. Hein. Mais après, il ne faut pas être 100 personnes parce que ça n'a plus de sens au niveau du groupe. Ouais. Mais 15-20 personnes, c'est
un grand maximum. Et alors, est-ce que ces gens que tu emmènes, c'est des gens qui sont sensibles à la nature? Est-ce qu'ils te posent des questions? Ils sont curieux?
Oui. Alors, les gens qui viennent sont sensibles à la nature, ça c'est sûr. Hein. Alors, la curiosité est toujours au rendez-vous. Il n'y a aucun souci de ce côté-là, parce qu'ils veulent connaître, et c'est assez...
Quoi, par exemple? Qu'est-ce qu'ils te montrent sur un arbre? Est-ce qu'ils connaissent un chêne d'un charme? Est-ce qu'ils connaissent un sapin? Est-ce que, quand même, ils savent ça?
Pas forcément.
Non?
Pas forcément, et donc c'est l'occasion, justement, de découvrir un peu différentes espèces. Mais c'est aussi, j'insiste beaucoup sur ce côté de la vie, d'une plante, de la vie d'un arbre notamment, qui est la source de toute la vie sur Terre. Donc tout le cycle, depuis les racines, depuis les champignons et les mycorhizes, jusqu'à la photosynthèse dans les feuilles. Alors bon, pour beaucoup, ça éveille des souvenirs de cours de SVT, mais ça permet
SVT
de... Oui.
Vas-y, je dis.
Les sciences et vies de la Terre.
Ouais, parce que là-bas, on ne comprend pas tout. Hein.
Et donc, ça permet de faire un peu, j'allais dire, de révision et puis de préciser certaines choses.
D'accord. Et les gens sont patients, ils savent regarder, ils savent observer quelque chose.
Oui, oui, oui. Ça, heureusement. Bon, je les préviens notamment pour les sorties chevreuils qui sont quand même très statiques, parce qu'on peut rester parfois une demi-heure, trois quarts d'heure sans bouger à les observer. Mais les gens le savent. Ils sont très patients et très curieux.
Mais un arbre, c'est majestueux, non ? Un chêne, par exemple.
Un chêne, c'est extraordinaire.
C'est extraordinaire.
Oui, oui. Ouais. Surtout si vous allez dans la forêt rhénane, notamment la réserve naturelle d'Erstein, où vous avez des arbres qui ont une hauteur qui est plus importante que la moyenne nationale, si je puis m'exprimer.
Et avant, pourquoi ?
Tout simplement grâce au climat qu'on peut avoir, dont je parlais tout à l'heure, chaud et humide. Donc les arbres, ils arrivent à pousser. Et puis, il ne faut pas oublier qu'autrefois...
Ils peuvent aller jusqu'à quelle hauteur, un chêne ?
35 mètres.
35 mètres, ouais. C'est énorme.
C'est énorme, ouais.
Et ils sont rectilignes, ils sont droits, et comme ça.
Il y a des chênes extraordinaires.
Ouais. Et là, je voulais pas te couper, tu voulais encore rajouter quelque chose ?
Oui, simplement, il ne faut pas oublier que dans le temps, si je puis m'exprimer aussi ainsi, avant la canalisation du Rhin, ce dernier, il débordait. Il y avait des inondations chaque année, ce qu'on appelait Kirchrinne, le Rhin des cerises, là, fin mai, début juin. Il débordait et il apportait donc de l'eau, bien sûr, dans ses forêts, mais aussi des alluvions, ce qui enrichissait le sol et permettait à cette végétation de pousser d'une manière exubérante.
Donc c'est pour cette raison, les arbres là-bas ont plus la patate, quoi, plus la
pêche.
Exactement.
Ouais, ouais. Exactement.
Et alors ils vont vers la lumière, hein, c'est eux qui...
Ah oui, oui, l'arbre, c'est une compétition entre les arbres, entre les plantes en général, pour justement aller vers la lumière pour la photosynthèse.
Et quand tu vas dans cette forêt, c'est de la méditation, tu es en immersion dans la nature. Tu penses que tu médites à ce moment-là, quand tu es seul ou avec ton groupe ?
Alors, avec le groupe, pas forcément, parce que là, je suis concentré sur ce qu'on voit, sur les explications que j'ai à donner, etc. Mais bon, je vais très très souvent seul dans la forêt, et c'est vrai qu'on peut rester assis par terre, pendant une heure ou deux heures, et là, c'est une forme de méditation.
À regarder, à observer, à écouter les bruits.
Exactement.
On va se reposer un tout petit peu les oreilles, et tu m'as demandé de mettre du Mozart, parce que tu me diras pourquoi tu affectionnes du Mozart. Mets-nous voir Thomas un petit peu de Mozart, si tu veux bien. Joli ce petit piano là, les touches. Hein.
C'est merveilleux.
C'est merveilleux, ça te plaît ?
Oui.
Pourquoi tu aimes Mozart ? Qu'est-ce qui te plaît en Mozart ?
Alors, déjà, Mozart, pour moi, c'est un génie. Hein. Mmh. Et d'autre part, je trouve que ça s'harmonise parfaitement bien avec la nature.
Avec la nature.
Quand on a écouté ces quelques notes de piano, j'ai l'impression d'être en forêt.
C'est beau ce que tu dis. Tu penses que les arbres, entre eux, ils jouent aussi du piano ? Ils se parlent, les arbres ?
Alors, du piano, j'en ai jamais vu, mais par contre, la communication chez les arbres, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Il faut savoir que, scientifiquement parlant, on n'en est qu'en balbutiement au niveau des découvertes de tout ce qui est communication chez les plantes.
Ah, c'est vrai ? Ah ouais.
Alors, moi, je prépare une conférence, la date n'est pas encore fixée, sur la communication, justement, ou sur l'intelligence des plantes. Wow. Beaucoup de chercheurs qui travaillent là-dessus, donc je me documente à droite et à gauche.
Les plantes ont une intelligence, tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire par là qu'une plante est
intelligente ? Alors c'est un peu difficile, je dirais, à saisir, parce que nous, êtres humains, on a souvent un peu un ego surdimensionné par rapport à la nature, on se sent supérieur. Mais quand on a tort. Quand on cherche un peu plus loin, on s'aperçoit qu'on a beaucoup, beaucoup de choses à apprendre de la nature. Et quand on parle d'intelligence chez l'homme, on pense tout de suite cerveau. Les plantes n'ont pas de cerveau. Mais c'est l'ensemble des feuilles, des racines, des branches, etc., qui réagissent par rapport à une situation. Et c'est ça, la définition de l'intelligence, c'est pouvoir adapter un comportement par rapport à une situation.
Et elle se comporte comment, la plante? Par exemple, une plante qui, une fleur qui pousse à côté d'un chêne. Quelle est la communication qu'ils ont l'un et l'autre?
Alors, il y a deux choses. Les plantes qui poussent au pied d'un chêne, d'abord, elles vont pousser avant que le chêne ait ses feuilles, pour justement bénéficier de la lumière. Quand vous allez en forêt, tôt au printemps, vous allez trouver des violettes, de la pervenche, de l'anémone sylvie, etc., qui fleurissent très très tôt. Après, l'arbre a ses feuilles, donc il y a beaucoup moins de lumière. Après, au niveau communication, ben, je citerai quelque chose de tout simple, les racines. Les racines qui vont dans le sol, à l'aveugle quelque part, mais lorsqu'elles rencontrent une roche, elles sont bien obligées de prendre la décision de partir à droite, à gauche, pour changer de chemin.
De dévier.
Et donc tout ça, alors c'est vraiment un raccourci que je fais, mais ça montre l'intelligence d'une plante.
Et tu parles à l'instant, c'est vrai qu'on j'y ai pas pensé, mais la racine est dans le noir, effectivement.
Exactement.
Il
n'y
a pas de lumière, là, dans les racines.
Non, il n'y a pas de lumière, sauf pour les racines qui sont très proches
du sol.
Tu
veux dire qu'une assiette, comme ça, il y a des racines qui sont... qui ne sont pas profondes, comme un sapin, par exemple.
Alors, il faut être, je dirais, peut-être plus précis.
Ouais.
On a des racines, des très grosses racines, et petit à petit, elles se ramifient pour devenir de plus en plus fines. Mais il y en a à tous les endroits, à quelques millimètres de la surface du sol, comme à 30 mètres de profondeur.
Ouais. Mmh. Et pourtant, un arbre, des fois, se fait déraciner parce qu'il y a une tempête. Donc,
oui.
Il tombe parce qu'il est fragile ou...
Oui, il a été fragilisé pour une raison ou pour une autre. Hein. Ça peut être le cas lorsqu'il y a des conditions climatiques qui ne sont pas extraordinaires. Une forêt, je fais toujours le distinguo entre une forêt qui a une variété d'arbres différentes, d'espèces différentes, contrairement à un champ d'arbres.
Un bouquet d'arbres, tu veux dire?
Quand je parle, par exemple, de la forêt des Landes,
ouais.
C'est de la monoculture de pins.
Ouais.
Alors pour moi, ce n'est pas une forêt, c'est de la culture.
Ouais, c'est ça.
Et
ouais.
Tant qu'on a une variété, quelle qu'elle soit, au niveau des arbres, au niveau des cultures agricoles, dès qu'on a de la variété, tout est beaucoup plus fort. Ça arrive à se défendre. Si l'un ou l'autre arbre ne tient pas le choc par rapport à un ou l'autre élément, les autres sont là, prennent le relais, voire, et ça a été prouvé, apporte des éléments nutritifs à un autre arbre qui est malade à quelques mètres.
Wow, c'est génial ça. Alors, ils s'entraident.
Ils s'entraident, et même entre espèces différentes.
Ah ouais, c'est vrai que c'est une leçon de vie ça.
C'est une leçon de vie.
Ouais.
On va être peut-être encore avec un exemple. Des grands chênes, et il y a des glands qui tombent, pas tous les ans mais presque. Il y a des petits chênes qui vont pousser et qui vont être en attente, en stand-by. Mais le grand chêne va alimenter le petit chêne pour qu'il ne meure pas. Et lorsque ce grand chêne, d'ici 50, 100 ou 200 ans, va tomber, le petit chêne qui aura été stand-by, comme je dis...
Biberonné par le grand.
Voilà. Et puis là, il va profiter de la lumière qui arrive maintenant jusqu'au sol.
Pour se mettre à sa place.
Ouais.
Alors, j'ai aussi une question à te demander. Qu'est-ce qu'elle t'apporte, cette nature, à toi, Pierre? Qu'est-ce qu'elle donne? Elle te nourrit? Dis-moi un peu.
Alors, elle nourrit surtout spirituellement, hein, on va dire ça comme ça. Avec des journées, je sais que lorsque je travaillais, des journées un peu difficiles, on passe une heure ou deux heures dans la nature après, mais on est complètement revigoré et tout va bien. Donc ça apporte beaucoup de calme et c'est prouvé aussi scientifiquement. Aller en forêt, ça va vous baisser la tension artérielle et le rythme cardiaque.
Ah donc il faut que j'y retourne un peu parce que moi je suis nerveux de temps en temps. Surtout quand je viens ici à la radio, de temps en temps je suis un peu nerveux.
Alors autant passer en forêt un petit peu
avant.
Non
mais j'y passe beaucoup de temps à me promener dans les forêts, à observer les arbres, la nature, les écureuils, ou alors la nature, la faune et la flore. Alors est-ce qu'on devient humble aussi quand on se promène dans la forêt?
Je pense qu'il faut déjà l'être au départ. Il faut beaucoup, beaucoup d'humilité parce qu'on a tellement de choses à découvrir. Et puis, quelque part, quand on est naturaliste, il y a un côté frustrant. Parce que quand on pense connaître un petit peu la nature, on s'aperçoit qu'on ne connaît rien du tout. Alors, bien sûr, lorsque j'explique certaines choses à un groupe, ils disent « mais tu connais plein de choses », etc. Mais moi, j'ai l'impression de ne pas connaître encore grand-chose. Et c'est quelque chose de permanent.
Mais c'est toi qui es humble maintenant, devant les micros. Je trouve que tu connais quand même beaucoup de choses.
Oui, j'ai la prétention de connaître quelque chose.
Quand même, oui.
Sinon, je ne pourrais pas faire guide nature, ça
c'est certain. C'est sûr. Ouais.
Mais toujours à apprendre.
Mais c'est vrai qu'on a toujours à apprendre. Jean Gabin le disait toujours dans sa chanson. On ne sait pas tout, on ne sait pas tout. Alors, Pierre, une petite question rigolote à te poser. Si tu étais un arbre, tu serais quel arbre, toi?
Alors, si c'est en local, ce serait un chêne, de par cette majesté, cette beauté, là aussi beaucoup d'humilité, tout simplement. Pour illustrer ça, le chêne, il porte ses premiers fruits au bout de 80 ans.
Comment 80 ans? Il met 80 ans pour avoir des glands?
Oui.
Non. Bon?
Oui. Après, c'est un arbre qui peut vivre, si on le laisse tranquille, qui vit 200, 300 ans, hein. Il y en a dans la forêt d'Erstein qui doivent avoir 200 ou 300 ans.
Wow. Oui, mais les bûcherons ne coupent pas les chênes, je pense. J'espère qu'ils ne les coupent pas, quand même.
Pas dans la forêt d'Erstein, parce que c'est une réserve naturelle, mais d'autres endroits, les chênes sont récoltés.
Dans des forêts privées.
Oui, tout à fait.
Alors, moi, je trouve que les bûcherons, un jour, je leur ai dit ça, vous êtes des vrais guillotineurs, l'arbre, il doit sentir quand vous venez avec votre scie, là. Et c'est quand même triste de couper un arbre qui a vécu tellement de choses.
Oui, c'est toujours triste de couper un arbre. Alors, certes, il y a des arbres qui sont arrivés, on va dire, à maturité. Hein, donc, on peut en récolter à droite, à gauche. C'est vrai que du bois, on en a besoin pour un certain nombre de choses. Mais surtout, lorsqu'on abat un arbre, il faut être respectueux. Il ne faut pas l'abattre lorsqu'il est adolescent. Adolescent, jusqu'à 100 ans, c'est un chêne est adolescent.
Hein. Adolescent, à une centaine d'années,
Oui. Et surtout, préserver tout ce qui est autour. Parce que que j'expliquais tout à l'heure, il y a des jeunes pousses qui sont prêtes à grandir et donc il faut les épargner.
Donc là, tu m'as parlé d'un chêne. Tu voudrais être un chêne. Si tu étais une fleur, tu serais quelle fleur?
Alors, j'irais bien dans les orchidées.
Orchidées?
Orchidées,
les orchidées sauvages, alors.
Des orchidées sauvages.
Pas qu'on mette sur la fenêtre, là, près du radiateur.
Pas les phalaenopsis qu'on trouve en jardin. Ouais. Oui. Alors, les orchidées, c'est assez merveilleux. J'ai fait, il y a 2 semaines, 2 sorties sur les orchidées sauvages.
Où est-ce qu'il y en a, des sauvages?
Alors, je ne sais pas si je vais le dire ou pas. Si, il y en a un petit peu à droite, à gauche, notamment au Tauburgissen. Et dimanche, on était dans la réserve naturelle d'Erstein, il y a aussi des orchidées. Alors, il faut avoir l'œil.
On a trouvé, alors?
Oui. Il faut avoir l'œil parce que ce n'est pas des orchidées qui ont 50 cm de haut. Souvent, c'est quelques centimètres. Donc, il faut faire très, très attention. Ce sont des espèces strictement protégées, bien entendu, hein.
Et le groupe que tu avais ce dimanche, là, ils étaient sages? C'était des hommes sages?
Écoutez, déjà, je les mets en garde. S'ils sont pas sages, je les perds en forêt.
Je crois qu'il y avait un collègue qui était là, Claudine. Non, oui. Tu le connais, Claudine?
Oui, tout à fait.
Le futur maire de Wissembourg, d'Erstein. Non, je plaisante, il le sait, Claude.
Oui. Mais non, j'ai aucun problème avec les groupes.
Ouais.
Toute façon, les personnes sont là pour apprendre quelque chose, pour partager quelque chose. C'est un mot sur lequel j'appuie beaucoup, parce que c'est sorti, c'est pas uniquement, on va dire, un cours de professeur d'université, je mets ça entre guillemets, c'est pas du tout péjoratif, hein, mais c'est un moment de partage, d'échange, parce que chacun a ses connaissances ou a observé telle espèce d'oiseau ou de plante, et ça permet de se nourrir mutuellement.
D'accord. Donc tu serais chêne, tu serais orchidée, si t'étais un oiseau, tu serais lequel?
Alors là, c'est délicat, parce que j'aime beaucoup les oiseaux. Alors chez nous, je suis très sensible au courlis cendré.
Le courlis? Il ressemble à quoi, le courlis?
Alors, courlis, c'est un oiseau qui a presque la taille d'une poule, avec un très très long bec incurvé vers le bas.
D'accord.
Alors, c'est un oiseau qui était extrêmement courant dans le ride alsacien, mais étant donné que le ride a disparu à 70 ou 80%, il a pratiquement disparu. Il y avait l'année dernière 4 à 5 couples de courlis dans toute l'Alsace.
Et comment il chante, un courlis?
Alors, je ne vais pas l'imiter, c'est un chant très difficile à imiter, très flûté.
Tu peux pas le faire, non? Tu peux pas essayer?
Ça va être trop compliqué.
Non, c'est pas comme ça.
Bon, après, il a une partie du cri qui est coui, coui.
Ah, bah oui, voilà.
D'où son nom. Hein.
Bah oui, voilà, ouais. Mais tu sais le faire, tu vois.
Il y a une autre partie qui est beaucoup plus longue.
Ah oui, d'accord. Alors, arbre, fleur, oiseau et un insecte. Tu serais quoi comme insecte?
Alors, un insecte, je pensais à un insecte qu'on a vu samedi. C'est le lucan cerf-volant.
C'est
le plus gros scarabée qu'on peut trouver chez nous, avec chez le mâle des mandibules qui ressemblent à des bois de serre.
Ah oui, je vois bien ce que c'est, oui. J'en avais dans mon jardin déjà, j'en ai déjà vu ça.
Oui, donc ça devient assez rare aussi, Et c'est toujours un grand, grand plaisir de les voir.
Et tu connais le rospou, le kèvre?
Oui.
Comment tu dis en français?
Bousier, tout simplement.
Le bousier, tout simplement. Oui. C'est quelqu'un qui roule. C'est incroyable ce qu'il fait. Hein.
Oui, oui. Alors celui-là, il est très courant par contre. Hein. Si vous vous promenez par exemple dans les Vosges, il y en a beaucoup.
Écoute, c'est bien. Écoute, pour l'instant, on a dit beaucoup de choses. On va de nouveau se reposer un peu les oreilles parce que tu aimes Mark Knopfler. La musique de Dire Straits, on va l'écouter un petit peu avec Thomas, il va nous mettre ça.
And he put down his load where he thought it was the best. Made a home in the wilderness. Built a cabin and a winter store. And he plowed up the ground by the cold lake shore. The other travelers came walking down the track. And they never went further, no, they never went back.
C'est beau, hein, Knopfler.
C'est merveilleux.
C'est génial comme musicien, comme guitariste. Et d'ailleurs, je crois qu'il a vendu une partie de ses guitares aux enchères, hein, pour un truc caritatif. Sa Fender rouge dont il est fan. Et pourquoi tu aimes Knopfler? Qu'est-ce qui te plaît en lui?
Bon, j'aime énormément sa musique. Et puis, c'est vrai que c'est un guitariste hors pair. Hein. Et d'autre part, j'ai un fils qui a un groupe de musique et qui joue l'un ou l'autre morceau de Dire Straits. Et
il arrive à le faire avec sa guitare.
Alors, c'est pas le même niveau.
C'est pas, oui, j'imagine.
Oui, mais bon, moi qui sais pas aligner deux notes de musique, je suis toujours admiratif.
Ah
oui,
c'est beau. Moi, je l'ai vu en concert au Zénith un jour, peut-être toi aussi. C'est extraordinaire, cet homme. Ouais, ouais. Et alors, parle-moi encore. Voilà, on a parlé de Mark Knopfler, mais comment on peut te contacter pour faire des randos, pour partir avec toi, visiter la nature? Comment on peut faire?
Alors, moi, j'ai un site internet qui s'appelle Les Chemins de la Nature. Je précise bien les chemins au pluriel parce qu'il existe un autre site, Le Chemin de la Nature. C'est pas la même chose. Donc, Les Chemins de la Nature. Et je travaille toujours en partenariat avec l'Office de Tourisme Grand Ried. Hein. C'était Erstein, Benfeld, Rino, Markolsheim, qui, dans sa brochure annuelle, publie les sorties que je programme. Après, on peut me contacter aussi pour des sorties ponctuelles qui ne sont pas programmées.
On le mettra un peu sur notre site de Radio Judaïka, comme ça les gens pourront te contacter. Et donc, tu es dans les différents coins. Tu me disais, tu es à plusieurs endroits. Hein,
Alors, donc, essentiellement sur Erstein, hein, donc, bon, sortie Ried, sortie Forêt Rhénane, sortie Plan d'eau en hiver pour voir les oiseaux. Et communication chez les plantes aussi, c'est quelque chose que je fais. Ou alors aussi des sorties sur les plantes culinaires ou les plantes thérapeutiques.
Ah, ça m'intéresse, culinaire. Oui. C'est quoi les plantes culinaires? Par exemple, le perlaure?
Oui.
Le père.
Ben c'est la fin, là.
C'est la fin de
l'ail des ours.
De l'ail des ours.
Mais il y a plein de choses. Il y a plein de choses.
Quoi, par exemple, comme plante culinaire?
Ça peut être le plantain, ça peut être de la lierre, ça peut être l'ortie, tout simplement. Qui est quand même une plante assez extraordinaire au niveau richesse.
Pourquoi, par exemple, elle fait pousser les cheveux?
Alors, je ne sais pas. Sinon, ça se saurait. Mais c'est une plante qui contient énormément de sels minéraux qui est extrêmement intéressante au niveau nutritionnel.
Nutritionnel, ouais. Et alors, c'est dans les prochaines semaines, tu fais quoi? Tu fais des randos, là, au mois de juin, là, tu pars?
Alors, ça va surtout démarrer à partir du mois de juillet avec les sorties chevreuil. Il y a une sortie plante comestible dont on parlait début juin, le 4 de mémoire. Donc, il y a pas mal de choses.
Ok, bah écoute, je crois que en fait, je te remercie d'être venu dans notre émission Radio Jules Desquais. Ça m'a fait plaisir de partager la nature avec toi. C'était vraiment très très sympa. Ben bon retour à Erstein.
Merci.
Comme que ta âme, comme on dit en alsacien.
Ouais, merci de m'avoir invité.
Bah écoute, c'est un grand plaisir de parler avec toi et on pourra refaire une émission cet automne si tu veux parler d'autre chose.
Aucun problème, okay. Parce que c'est une passion chez moi.
Ça je se le sens, sens ça.
Ça se sent ouais. Peut-être. C'est... Et puis c'est important de pouvoir la partager.
De partager. Merci beaucoup.
Merci.
Générique de fin, mon ami Thomas.
Voilà, c'est fini. On a tant ressassé les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté. Que voilà.